Hop hop Brice, Igor, vous venez, c'est à Tahiti que ça se passe. Je vous ai pris deux billets, ça surfe rien à Nice, on décolle demain. Et oui, vous allez découvrir le surf aux Jeux Olympiques. Et c'est maintenant, ce Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bienvenue à tous sur
Super.
Et cet épisode spécial JO Paris 2024. Comment ça va les copains? Seb, est-ce que ça farte?
Toujours, ça farte, bien sûr.
Nico, est-ce que ça baigne?
Il les a tous.
Et le troisième?
William, est-ce que ça roule?
Désolé, il m'en manquait un.
Les rouleaux du surf. Si, les rouleaux des vagues. Ça fait.
Je pensais qu'il m'en manquait un.
Non, tu l'as.
On est bon.
Il a le vocabulaire qui va avec, c'est incroyable.
Nickel.
Alors aujourd'hui, ça va parler de surf, retour aux sources, controverses, surprise, style de surf, chance de médaille. Tout y est pour un événement croustillant. Puis c'est au JO de Paris. Alors tout le monde sait déjà ce que c'est le surf.
Eh oui, il y a de la polémique.
Ouais.
On va en parler.
Petite polémique, petite controverse.
Qui a démarré l'automne. C'est les JO de la polémique.
Merci Hidalgo. Hein. Merci.
Bam, les deux pieds dans le plat.
Allez hop, c'est dit.
Et dans sa figure.
Alors je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'introduction du surf. A priori, une personne, une planche, des vagues,
ouais.
On glisse.
Des cabrioles.
C'est des cabrioles, des figures dans tous les sens. Il faut savoir que c'est déjà rentré au JO en 2020. Donc en 2021, au JO de Tokyo.
Ah, oui. Il me semblait que ça y était déjà.
Pour moi, ça fait plus longtemps que pareil. Ça y est. Ouais, je ne sais pas pourquoi.
Ça a démarré au JO, mais la première demande pour que le surf soit au JO était il y a plus de 100 ans. C'était un sprinter australien qui avait fait la demande. Et 100 ans plus tard, donc on est en 2021.
Pour demander du surf.
Il était australien, tout simplement.
Cela dit, ça dépend.
Non, mais pourquoi pas un surfeur australien, par exemple?
Mais le surf n'était pas au JO, Sébastien.
Non, mais il n'existait pas à l'époque. Du surf.
Et oui, donc cette année, JO retour aux sources. Pourquoi? Parce que le surf avait été créé dans les îles du Pacifique, notamment par des Tahitiens qui souhaitaient se diriger vers Hawaï et qui devait passer la barrière de corail, et donc qui allait en surf. Et pourquoi retour aux sources? Parce que les JO de surf de Paris 2024 auront lieu à Tahiti.
D'accord.
Sur la fameuse vague de Teahupo, dans le petit village de pêcheurs. Alors, il y a plusieurs types de surf, déjà.
Ouais.
Les types de surf dépendent en vrai de la taille des vagues, en général, et donc de la taille des planches, puisque les planches vont différer en fonction des vagues qu'on va prendre, au niveau flottabilité, au niveau volume, au niveau dimension. Et on va avoir, par exemple, comme surf, le big wave surfing avec des vagues qui vont aller de 8 à 30 mètres, ce qu'on voit généralement très impressionnant, des gens qui surfent d'une hauteur d'un immeuble de 20 étages, mais on entend ce genre de commentaires.
C'est ce qu'on voit sur la promenade des Anglais le week-end.
Oui, vraiment, c'est celle-là même.
Ils surfent sur les immeubles, les gens, pas de la taille des immeubles, sur les immeubles.
Donc ça, voilà, c'est un type de sport qui est complètement différent du sport, typiquement du type de surf qu'on va avoir au JO, c'est très spécifique, il y a énormément de dangers.
Ah, d'accord.
Ensuite, on va avoir un autre type de surf qui sera le surf longboard avec des vagues très petites, très douces, où ça va plutôt être quelque chose de très chill, très artistique. Ouais. On va se déplacer vers l'avant de la planche, on va faire des arbres droits, etc. Sur sa planche, c'est très, très tranquille.
Ah, excellent.
Un peu de yoga sur le planche.
Oui, bah ça, sur TikTok, il y en a plein.
Breakdance, le breakdance surf.
Breakdance surf.
Vraiment, c'est la même chose, mais en faisant du breakdance sur ta planche.
Oui, après, on peut tout inventer. Hein.
Au prochain JO, je pense que...
Et derrière, il faut 100 ans pour y arriver.
100 ans, chez vous. Et derrière, on aura donc le surf qui s'appelle le surf shortboard, qui est en fait le surf plus sportif. Donc sur des planches qui sont beaucoup plus petites, ils font en général la taille des surfeurs.
La taille des pieds.
La taille des pieds. Ils font un pied de long d'ailleurs, des planches d'un pied. Ils n'ont pas de planche finalement. Donc sur des planches beaucoup plus petites, vous voyez qu'ils font la taille des surfeurs. Donc ça fait environ, c'est compté en pieds les tailles de planches de surf. Donc ça fait environ 6 pieds. Christian, pas un seul, mais 6.
Du coup, oui. Ouais.
Qui fait voilà 1m80, 1m85, un peu plus suivant si les vagues sont grosses le jour de la compétition. Et on va pouvoir faire avec ces. C'est ces planches qui sont très maniables, très légères, on va pouvoir faire énormément de figures. On va pouvoir faire même des airs, quoi, comme on voit dans le snowboard, par exemple. On va pouvoir sauter à partir d'une vague, on va pouvoir prendre des rouleaux. On va pouvoir faire absolument tout. Et c'est donc, sans surprise, puisque c'est le surf le plus pratiqué, le plus regardé, sans surprise que c'est cette épreuve qui a été choisie pour les JO.
D'accord,
déjà en
2020.
Il y a déjà des compétitions de big wave, de longboard, mais elles ne sont pas encore sélectionnées pour les JO. C'est pas encore des épreuves qui existent.
Ah purée, tu vois, sur les vagues de Teahupo qui sont immenses, j'aurais eu tendance à imaginer le big wave, quoi,
ouais,
tu vois.
Absolument. Et c'est là, en fait, que ces JO sont très particuliers, puisque il y a 4 ans, on était sur une plage avec des vagues qui étaient allant jusqu'à 2-3 mètres, donc qui étaient sur des vagues de taille normale pour le surf shortboard, hein, les vagues qui vont de 2 à 6 mètres. À Teahupo, c'est très particulier parce que les vagues peuvent aller jusqu'à 7-8 mètres en fonction des conditions météorologiques. Et il se trouve que les JO, à la date à laquelle ils vont faire la compétition, il y a 2 ans, il y a eu la plus grosse vague jamais enregistrée à Teahupo, exactement aux mêmes dates,
d'accord,
qui était de à peu près 8 mètres.
D'accord.
Donc on était sur un événement totalement différent. Et vu que les athlètes ne sont pas forcément prêts à des vagues de cette taille-là, ça va être...
Le carnage.
Le carnage.
Une boucherie. Ah oui. Alors, je comprends la polémique. Donc, le côté polémique, ouais, c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire,
c'est même pas la seule polémique.
Et la polémique n'est même pas là.
Je sais que c'est même pas la seule polémique. Ok, d'accord, ok.
Voilà. Et donc, dans ces conditions, il faut savoir que la vague est une vague qui, en plus de ça, est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Puisqu'on a des coraux qui remontent à certains endroits de la vague jusqu'à 50 cm de la surface.
D'accord.
Ce sera pas du sable.
Réception corail. C'est vague de 8 mètres. Réception.
Au moment de se lever sur une vague de 8 mètres très puissante, quand tu sais qu'il y a des coraux 8 mètres plus bas quand tu te lèves et qui t'attendent à 50 cm de la surface, voilà,
ouais,
il y a un côté danger, en fait, il y a un côté psychologique dans cette vague qui n'est pas à sous-estimer, en fait, pour les athlètes,
okay,
pour les compétiteurs.
Waouh.
Voilà.
Psychologique et danger physique, prépa psychologique. Okay.
D'ailleurs, il y a déjà un événement, en fait, qui est fait dans les Championship Tour de professionnels, hein, sur cette vague. Et il me semble qu'il y a 15 ans, il y a un athlète qui est décédé pendant le tour après avoir pris un gros wipeout sur une vague assez costaud et qui, en fait, est tombé sur la tête et il s'est cassé la tête.
Sympa, écoute.
Mais du coup,
il y a des gens qui surfent avec des casques sur cette vague, quoi.
Mais il y a quand même des compétitions de ce surf-là, enfin, classique, là-bas.
Oui.
Mais c'est peut-être pas ces périodes-là.
Si, tous les ans.
Pour éviter ce genre de vague de 8 mètres, ils font peut-être, non, fonction.
Je sais pas, mais j'ai déjà vu des événements où les vagues sont très grosses et ça tourne un peu au big wave event.
Mais polémique, enfin, pas tant que ça non plus, parce qu'il y a quand même des compétitions. Non, les ans là-bas, non, non. De cette catégorie.
Mais la polémique, c'est pas ça. Ouais.
Oui, non, je sais. Non, mais alors, première polémique. Voilà.
Non, pas du tout. Les surfeurs, je pense qu'ils sont, ils sont hyper contents d'aller là-bas parce que justement, il y a ce challenge.
Ouais.
Et d'autant plus, on le verra plus tard quand j'arrive dans la présentation, qu'on a des Français qui seront typiquement au top pour ce style de vague.
Ok.
Ah, génial.
Des chances énormes.
Ouais, on a choisi une discipline.
Oui.
Bah, attends, on est chez nous ou pas?
Bien sûr.
Alors,
c'est nos arbitres, en plus. J'espère.
Ouais. Lieu et installation des JO, donc ça se passe dans le petit village de pêcheurs qui est le village de Teahupo. Pour dire la taille de ce village et à quel point il est isolé, il n'y a pas d'eau potable dans ce village. Donc on arrive sur une petite route en terre et on doit prendre le bateau pour aller jusqu'au corail, jusqu'à où il y a la vague. Donc seulement ceux qui sont à bateau ou alors avec des jumelles depuis la terre peuvent voir l'événement.
Oui, parce qu'on a toujours l'impression que c'est en bord de mer,
ouais,
hein, mais c'est
évidemment
sur l'île de Tahiti. Quand tu regardes la vague... De là où enfin, du rivage, tu dis, mais elles sont nulles,
ces vagues.
Vague,
ouais.
Et sauf que bah, tu les vois, en fait. Et t'es à je sais pas combien de dizaines, centaines, alors centaines peut-être pas, je sais pas, mais t'es ultra loin et tu réussis déjà à les détecter là où t'es.
En fait,
donc,
ouais.
Quand t'es en face, oui, bah, les 4, 5, 6, 7 et voire 8 mètres du coup.
Et quand tu vois un surfeur d'un mètre 80,
ouais,
tu
vois pas le surfeur.
Ah, ouais,
de là.
Okay, ouais.
Non, mais c'est ultra. Enfin, t'as tout le lagon avant d'arriver au corail et à cet endroit-là. Putain, okay.
Et en plus, c'est très traître parce que ce qu'on voit pas dans les fonds sous-marins qu'il y a là-bas, c'est que juste au-delà du corail, on tombe à des profondeurs de peut-être 300 mètres. Et donc, en fait, on voit pas les vagues se dessiner jusqu'avant qu'elles arrivent au corail. Ce qui fait qu'on a l'impression que les vagues sont beaucoup plus petites avant qu'elles se dressent, en fait.
Ah,
oui. Donc voilà, c'est très piégeux. C'est pour ça qu'elles se lèvent très, très vite et qu'elles sont particulièrement dangereuses.
Ok.
Voilà.
Et donc, ça va trembler quand
ça va trembler. Ça va être.
Et donc voilà. Donc la controverse qui touche en ce moment cette installation, c'est que il y a déjà des compétitions qui sont installées là-bas tous les ans. J'en touche un mot. Et il y a une maison sur pilotis qui est établie sur le corail pour les juges. Et elle est en bois, elle est démontable. Et en fait, pour les JO, ils ont décidé. Donc c'est fait comme ça depuis 20 ans. Et pour les JO, ils ont décidé de venir installer une structure qu'ils vont bétonner sur le corail pour faire une structure en aluminium qui va être éphémère juste pour les JO. Et donc, il y a eu des manifestations de surfeurs qui, avec les populations
même
locales,
de locaux,
voilà, qui ont entraîné un petit peu les populations locales parce que c'est un peu la terre sacrée. En tout cas, les entretiens des Tahitiens qu'il y a là-bas, c'est on est pour le développement, rapporter l'eau potable et la fibre, etc. Par contre, si c'est au détriment de l'environnement, on n'en voudra pas, quoi. Ouais. Voilà.
Et donc, le corail, ils font tellement de choses pour pouvoir sauver les coraux là-bas que t'arrives
que là,
un gros bloc de béton.
Surtout qu'à la première, il y a eu une installation où il y a un mec qui s'est un peu merdé avec son bateau, qui a éclaté qui s'est éclaté sur des trucs de coraux et tout. Donc en plus, l'installation, c'est se passe super mal. Quoi.
Ah oui.
Ouais. Et très controversé, mais elle aura lieu quand même. Il faut le savoir.
Oui, d'accord.
Elle aura lieu.
Eh ben.
Si on rentre dans le vif du sujet. Dans le surf, comment est-ce qu'on fait pour gagner une compétition? Donc,
on meurt pas déjà.
C'est très simple déjà.
C'est un peu comme dans la danse.
Vivant, coup, avant
est-ce qu'on peut? Est-ce que tiens, point de règle où tu n'auras forcément pas la réponse. Est-ce que si tu viens de signer la meilleure performance, tac, tu dead. Est-ce
tu
que
gagnes quand même
ta médaille d'or à titre posthume?
À titre posthume. Ouais. Très
ou est-ce que le deuxième prend
très
le point?
Bah, on verra bien.
C'est parti.
Sans
surprise.
Je te sentais
bien,
chaud.
Bien évidemment.
D'accord. Bien sûr, ça ne s'est jamais passé. Donc, okay.
Et plus, c'est certainement une règle commune à plein de sports différents.
Ouais, ouais,
tout à fait. On n'en parle pas. C'est trop tabou. Et donc voilà, donc il faut avoir beaucoup de technique, beaucoup de polyvalence, mais surtout ce qu'on voit beaucoup moins, c'est qu'il faut savoir rester lucide dans les moments de pression, ouais. Parce qu'il y a un côté stratégique, notamment sur la priorité qu'on a, oui, sur les vagues. Les surfeurs ne peuvent pas partir sur la même vague, il y a un ordre qui est établi, il y a des priorités naturelles et puis il y a des priorités qui sont données en fonction de quand les gens reviennent à un endroit où ils pourraient prendre la prochaine vague.
Attends.
S'ils y sont en premier, ils ont la priorité.
Mais moi je croyais que c'était...
Chacun pour sa peau.
Non, non, mais si que c'était c'est à Sébastien de partir. Vas-y, t'as 10 minutes. Non c'est pas du tout comme ça. C'est
les gens sont plusieurs au même moment sur les vagues et
ah ouais.
Et
oui. Mais les arbitres ils regardent où?
Comment ça? Ah ben les juges en fait ils voient les vidéos des vagues sur des caméras qui sont prises de face. Et en fait ils regardent presque pas les vagues en direct en fait.
Je comprends pas pourquoi ils foutent le truc en plein milieu de la mer. Si on regarde sur les caméras,
Le truc de pilotis,
oui.
Ah, c'est vrai que je sais pas.
Oui, mais c'était un peu le débat aussi, c'est que les juges, ils regardent beaucoup sur la vidéo. Ce truc.
Tu peux pas voir tous les surfeurs s'il y a deux vagues qui arrivent et que les deux surfeurs partent potentiellement sur un atteint.
Qui se comprend, quoi. Ouais.
Absolument. C'est vrai, c'est une très bonne question. Ok, je l'ai évidemment pas.
Ouais. Non, mais on va mettre la télé, les gars, on va la mettre en plein milieu de la mer. J'ai mon petit confort quand même.
Ça me paraît important.
Donc, ouais, c'est hors de question qu'on me foute dans un cage d'ibis. Non, non, moi je vais être en plein milieu de la mer.
C'est même pas l'eau potable en plus. Attends, c'est beau.
Alors, je vais essayer de présenter ça, à mixer un petit peu tous les éléments qu'il y a pour se rendre compte non seulement des stratégies et des chances de médailles, mais aussi un petit peu de l'état d'esprit qu'il y a dans le surf, pour un petit peu se rendre compte de comment se passe une compétition. Et la chose la plus simple, déjà, c'est comment est-ce qu'on note une vague, finalement, le plus simple.
Donc déjà, c'est comment est-ce qu'on note une vague, même pas la performance.
le surfeur.
Ah oui, non.
Le surfeur sur une vague, excuse-moi. Donc ça va être une note donnée par 5 juges. On va en faire la moyenne. Chaque juge donne une note de 0 à 10.
D'accord.
Entre 8 et 10, ça va être excellent. Entre 6 et 8, etc. C'est comme n'importe quel examen, on va dire.
Comme à l'école.
Et donc, on va donner une note de 0 à 10. Et on va prendre l'addition des deux meilleures vagues.
Mm-hmm.
Et ça va être une note sur 20. Et le but des surfeurs qui surfent, ce sera toujours de se débarrasser, évidemment, de leur moins bon score.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
J'allais dire, du coup... t'es pas noté sur une vague, t'es pas noté sur deux vagues, t'es noté sur les deux meilleures de tes...
Deux meilleures de 30-40 minutes dans l'eau avec le compétiteur.
D'accord, donc c'est ça, toi. Mais t'as 30-40 minutes dans l'eau et tu peux en prendre 22 des vagues.
Autant que tu veux à partir du moment... Alors si tu grilles des priorités, si tu grilles des règles de priorité, tu vas avoir des pénalités. Par exemple, on va t'enlever la moitié de ta deuxième... vague, par exemple.
Ok, d'accord. Ouais, priorité, oui, il faut pas que tu ailles à chaque fois.
Et ça, c'est des stratégies qu'on a déjà vues, d'ailleurs, par exemple, une stratégie toute simple. Mais si on est bien devant, par exemple, et qu'on sait que la dernière personne peut nous rattraper avec un 9.5, eh ben, on peut très bien dire, je lui grille sa priorité, on m'enlève la moitié de ma deuxième vague et je reste quand même premier, puisque l'autre n'a pas pris sa vague.
Ah oui, d'accord, ok, tu peux aller gratter une vague.
Tu peux faire de l'anti-jeu.
Ah non!
C'est déjà arrivé une fois,
ah
de
ouais,
l'anti-sport total.
C'est ça, l'esprit surf,
on alors, on comprend pas ça, parce que ça lui flingue sa note, du coup.
Ça lui flingue la moitié de la note de la deuxième vague.
Mais vu qu'il en a deux, et que l'autre, il en a qu'une.
Deux, et que l'autre, il en a peut-être qu'une. Tu vois.
Mais l'autre, il a pas eu. Oui, c'est en mode, c'est sûr, il reste deux minutes.
Dernière seconde. C'est arrivé une fois, c'est un Brésilien qui l'a fait, Gabriel Medina, et c'était la controverse, parce que le surf, comme c'est dans les règles, l'esprit du surf avait été pris à revers, on va dire.
Ben ouais.
Sauf que c'est dans les règles. Alors, on a vu tous les replays un peu Facebook qui disaient, regardez, il a super bien utilisé la stratégie, mais les gens qui étaient absolument pas contents de ce genre d'esprit.
Ben ouais, surtout, ouais, c'est voilà. Ça, c'est, ouais, c'est dégueulasse.
C'est du foot, le surf, en fait.
Ben ouais, voilà.
C'est ça. Des rageux. Et donc, le déroulement d'un tournoi. Donc là, on note les vagues de cette manière-là. Le déroulement d'un tournoi, ça va être, on va avoir, par exemple, une trentaine de compétiteurs qui entrent dans une compétition et ils vont être séparés en groupes de trois. Ils vont, dans tous les groupes, aller en même temps sur la vague. Donc, les trois compétiteurs d'un groupe vont aller sur la vague. Le premier va se qualifier pour les phases éliminatoires et les deux autres devront refaire un duel sur la vague pour se départager et prendre une place pour les phases éliminatoires.
Okay.
Et ensuite,
donc,
on rentre dans un
tournoi. C'est 2 sur 3
voilà.
Qui se qualifient.
En fait, disons qu'il y en a un qui rentre en 8e et l'autre qui rentre en 16e, tu vois.
Okay. D'accord, oui.
Si t'as fait ton truc, à la fin, tu vas jusqu'à la finale. Et dans le surf professionnel, comment c'est organisé ces tournois? C'est qu'en fait, il y a des divisions. Il y a une première division, une deuxième division. La première division qui s'appelle le Championship Tour, pardon. Il y aura 11 événements sur l'année, donc 11 tournois sur l'année, sur des endroits différents. Il y a Théa Houpeau, par exemple.
D'accord.
Il y a un autre site en France, généralement, c'est la Gravière, c'est Haute-Gorre.
Mm-hmm.
Et après, il y a des sites, il y a les îles Fidji, il y a Hawaï, il y a l'Australie, il y a l'Afrique du Sud, etc.
Bon,
il y a
des coins chouettes.
Des coins très tranquilles.
Les surfeurs, tu
les surfeurs sont bien.
Ouais,
les surfeurs sont bien.
C'est pas la pire carrière sportive.
C'est un beau style de vie.
Ouais, ouais.
Au soleil, en plus, en permanence.
Ouais, à peu près tout le temps. Voilà.
Et tu vois, 2000, t'as pas énormément.
Non. Et le but, donc, ça va être sur ces 11 événements d'avoir le plus de points possible. Donc, comme un championnat traditionnel, on va, si on finit en première place d'un événement, on va avoir 10 000 points. En deuxième, on va avoir 7 500 points. À la fin de l'année, on fait le compte des points. Celui qui est premier, il a le titre mondial.
D'accord.
Voilà. Sachant que la première division, elle a 34 surfeurs. Ces 34 surfeurs sont les surfeurs les meilleurs du monde.
D'accord.
Voilà.
Oui.
Et il y a un système de relégation. Le plus mauvais descend en Challenger Series, qui est donc la division 2. Et
d'accord.
Elle remonte. Voilà. J'ai une anecdote hyper intéressante. Pourquoi? Qui sera plus intéressante par la suite. On va voir pourquoi. Parce que dans les 10 dernières années, pour vous se rendre compte un petit peu de quel pays est le plus dominant, d'ailleurs, ouais. peut-être vous avez une idée.
L'Australie, moi, je dirais.
L'Australie?
De facto, l'Australie.
Je dirais le Brésil?
Ouais. États-Unis?
États-Unis? Ouais. Ok, en comptant Hawaï, ouais, évidemment, en comptant Hawaï, États-Unis. Et ben c'est le Brésil, effectivement, ils ont gagné 8 des 10 derniers titres mondiaux en masculin.
D'accord, ah oui, voilà. Ok.
Et sachant que quand ils ne gagnent pas, ils sont deuxième ou troisième, et quand ils gagnent, il y a toujours un Brésilien aussi en deuxième, troisième, quatrième
ouais.
place, etc.
Ouais, okay.
Il y a du Brésilien partout. Italo Ferreira, qui a gagné, je crois...
Qui est italien, non, du coup
qui est brésilien, à ma surprise, a gagné la première médaille d'or aussi au JO, le premier événement. Et donc voilà, il y a une suprématie des Brésiliens qui est dingue et qui a démarré voilà dans les 10 dernières années parce qu'ils ont commencé à faire des figures sautées que les autres nations font beaucoup moins. Par exemple, en France, nos surfeurs ne sautent pas beaucoup sur les vagues, donc ça va être beaucoup plus du rouleau, des virages. Et le Brésil, voilà, c'est un peu le surf champagne, on va dire.
D'accord.
Très agréable à regarder.
Surf capoeira.
Ça lâche des airs dans tous les sens. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, des 3-6 dans les airs en partant d'une vague qui fait 3 mètres de haut. Impressionnant. Pardon.
J'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble.
Moi aussi, je suis trop curieux, franchement.
C'est généralement les Brésiliens.
Ouais, ok. Bah écoute, on regardera.
Ils boitent les
samba du Janeiro.
Et donc voilà. Et pour les JO, comment elle s'est fait la qualification? C'est qu'on a déjà pris les 10 premiers du Championship Tour de l'année dernière, ils ont été automatiquement qualifiés. Et pour les femmes, ça a été les 8 premières.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, on a des tickets en plus qui sont faits avec des tournois indépendants. Il y en a eu un l'année dernière dans laquelle 2 Français se sont qualifiés. Donc, un Français et une Française.
Mais il n'y avait aucun dans les top 10, top 8, il n'y avait pas de Français.
Dans les top 10 masculins, aucun. Dans les top 8 féminins, il y en avait une, Joanne Defay. Et il y a une deuxième fille qui s'est qualifiée là, avec le tournoi de l'année dernière. Et il reste encore un tournoi qui aura lieu en mars avec des tickets à prendre en plus. Sachant que par nation, on est limité à 2 tickets. Sauf si notre pays, parce que dans ces tournois-là, on se rassemble. Non, on s'organise par équipe de pays. Et si notre pays arrive premier, alors on a le droit à un spot supplémentaire. Et le comité olympique décide de qui va prendre ce spot supplémentaire pour le pays.
Okay. D'accord.
Donc, on a potentiellement 3 tickets. Voilà.
D'accord, ok.
Si on peut, notamment pour les femmes, puisque pour l'instant, on a 2 personnes, on pourrait en avoir un troisième dans le prochain tournoi.
Il y a un surfeur français qui était passé au quotidien, là.
Jérémy Flores?
Je saurais pas dire. Tu étais bronzé, tu revenais de Théa Houpeau. Enfin, vraiment le style surfeur.
Ouais.
Ouais. Et tu es Égérie.
T'as hydrolé?
Gucci ou un truc comme ça, ou Dior, un truc comme ça, là.
Ah, ça me dit rien. Ça me dit rien, c'est possible.
Ouais.
Bon, je connais pas. En fait, les non-surfeurs français sont pas très bien connus.
Alors, t'étais qualifié, je crois.
Ah, bah du coup, c'est Colly Vast.
colis, peut-être, ouais. Ouais. Je serai incapable de dire oui ou non.
Alors, la question qu'on a, nous, c'est que nos deux notre seul Français, pour l'instant, masculin qualifié, ouais. il appartient à la deuxième division.
Eh oui, ben oui.
Sachant qu'on a 10 masculins qui sont devant et qui appartiennent à la première division, comment...
Qui sont les 10 meilleurs du monde.
Qui sont les 10 meilleurs du monde.
De facto, quoi.
Finalement, de facto, comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser une médaille?
La triche.
Et...
Ben ouais, en
le
fait.
Dopage,
le dopage également.
Ou si les 10 premiers meurent sur les cours, okay, c'est clair.
Ouais, les décès.
Ça me paraît facile.
Ouais. C'est vrai que enfin, c'est ouais, non, mais en fait, il y a plein de solutions.
C'est des éléments de réponse.
Ouais, ouais, ouais.
Alors comment ça se passe? C'est qu'en fait, pour gagner un titre mondial, il faut être très polyvalent, faut pouvoir surfer plein de vagues différentes, faut pouvoir.
Ah oui, le choix de l'épreuve, donc non. Peut-être.
Le choix de l'épreuve, évidemment. Il y a des vagues avec que des rouleaux. Donc si on est très très bon en roulant, on a une chance de gagner, même face à des gens qui ont un niveau supérieurs qui vont gagner le titre mondial, mais tu pourras toujours les battre parce
d'accord,
que sur ces vagues-là,
le rouleau,
toi,
c'est,
voilà,
ton truc.
Okay. C'est ton truc. C'est le cas, par exemple, de Jérémy Flores qui avait gagné un événement, déjà gagné un événement, c'est énorme, un événement du Tour qui avait gagné en France à la Gravière contre des gens qui ont gagné le titre mondial.
Oui. D'accord. Oui,
et
okay.
Voilà, il s'en était sorti. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, dans les événements, dans chaque événement du Championship Tour de la première division, par exemple celui de Théa Oupo, s'il n'y a pas assez de surfeurs de la division 1, on fait venir quelqu'un de la division 2. Et cette personne est ce qu'on appelle une wild card, donc un facteur X,
ouais,
qui n'a rien à perdre. Voilà. Donc il sait qu'il va se faire un nom, il sait qu'il va devoir performer, mais face à un mec qui va gagner le titre mondial, si lui il perd, ça c'est un petit peu voilà.
Oui, c'est normal.
Il va perdre contre
ouais,
quelqu'un
pas de pression.
Pas de pression du tout. Et c'est là où en fait ça joue parce que en 2022, il y a une personne qui a été appelée pour rentrer dans le Championship Tour à Théa Oupo, et cette personne c'était donc Coli Vast, et ce mec était né à Tahiti. Il avait surfé toute sa vie la vague Théa Oupo. Il a sorti tout le monde jusqu'à la finale et il s'est incliné en finale contre un Brésilien, justement.
Ah, terrible.
Mais non, ah, bon, mais attends, c'est énorme, c'est extraordinaire.
Marco, oui, mais...
Ah ouais.
Et l'année d'après, donc 2023, il se refait inviter à cet événement-là. Cette fois-ci, premier mec qui sort,
le Brésilien.
C'est un Brésilien.
Allez, let's
il
go.
Passe, il arrive en demi et bon, il perd, il s'incline. Et ben, c'est ce mec-là qui a décroché un spot pour les JO.
Ah yes.
Allez,
chez lui
allez,
du coup.
À Théa Oupo, chez lui en direct et qui a une chance énorme en fait de pouvoir compéter.
Ah bah oui, carrément. Okay. Il peut
faire match
à fond,
il peut aller
en
finale.
Ah ouais.
Et chez les féminines, exactement la même histoire.
Oh yes.
Exactement la même histoire. On a une Tahitienne qui a été invitée à l'événement Théa Oupo du Championship Tour l'année dernière. Elle est arrivée en demi-finale après avoir sorti celle qui a gagné le titre mondial cette année-là.
D'accord.
Sur cette vague.
Ah ouais.
Tu m'étonnes qu'ils hésitaient pour les JO à le faire justement à
Osgore
et tout à Théa Oupo. Attends, mais
on va gagner là-bas.
Théa Oupo direct.
Bah, on va gagner là-bas.
T'as le choix du terrain, t'en prends-tu.
Exactement.
T'es sportif. Et c'était bien Coli Vast qui était.
C'était bien Coli Vast, ouais. Et la fille s'appelle Vainé Fierro, donc elle vient de Tahiti, c'est sûr et certain. Et je vais finir sur quelques facteurs en plus inattendus qui peuvent faire de la compétition quelque chose de complètement fou. Pour donner un exemple, à Tokyo, en finale des JO. Il y a 3 ans, du coup, les deux qui sont rentrés faire la finale, il y avait un Japonais et un Brésilien, donc Italo Ferreira. Il est rentré.
Italien.
Première vague qu'il prend.
Il se pète la gueule.
Il se pète la gueule. Ouais. Et en plus, il casse sa planche en deux.
Ah, il n'y a pas de...
Du coup, il a pagayé pour sortir derrière les vagues. Il est ressorti de l'eau sur sa demi-planche. Il y a son coach qui est arrivé avec une planche. Il a perdu 5 minutes sur le moment. Donc 5 minutes, c'est une, deux vagues peut-être de qualité. Mm-hmm. Et l'autre, il a pu dérouler tout seul. Il a quand même réussi à revenir. Mais c'est le genre de fait qui peut vraiment mettre
tout
en question.
En
fait. Ouais. Et à Théa Oupo, vu la dangerosité de la vague, il y a quelque chose d'autre qui va jouer. C'est est-ce que si on tombe sur la première vague, qu'on passe près du récif, est-ce qu'on y retourne vraiment avec le même état d'esprit, confiance ou pas. Et ça va jouer énormément.
Prendre des vagues en acier.
Voilà. C'est ça.
Et le fait d'avoir un local de l'étape, du coup, côté
ouais,
français,
voilà, lui,
c'est clair.
Mec, tu joues à domicile.
Tout. Il en bouffe depuis qu'il a 6 mois des vagues.
Et puis, il sait comment les vagues se comportent exactement, etc. Donc, ça, c'est un avantage qui est considérable, en fait. Il leur parle. C'est vrai.
Tu vois, il passe à côté.
nique-le,
non mais c'est vrai. Alors par contre, je j'avais regardé la compétition il y a 3 ans du coup. Ça reste un truc un peu lent. Comme,
ouais, absolument.
Quand la vague arrive, que ça surfe et tout, c'est stylé.
Ouais.
Mais après, pendant 10 minutes, il peut ne rien se passer du tout.
C'est ça.
Et ça, c'est étonnant comme sport. Enfin, comme épreuve.
Ils choisissent leur vague. Si t'as pas
et
une belle
plus,
vague,
ils choisissent.
En fait, donc,
c'est ce que j'allais dire. Il y a un truc qui compte énormément, notamment vis-à-vis de la priorité, etc. Ça va être la sélection des vagues. Parce que les juges qui vont noter, généralement, en fonction des conditions du jour, ils vont donner des indices sur ce qu'ils veulent mieux être noté. D'accord. Et ça va être la sélection, la longueur des rouleaux, si c'est une journée où tu vas plus. Donc du coup, ce jour-là, tu n'as aucun intérêt à prendre des vagues qui ne vont pas faire de rouleaux, par exemple.
Oui, d'accord.
Donc tu vas laisser passer des vagues. Et surtout, si tu prends une vague et que tu laisses passer la vague d'après, qui ça se trouve est 100 fois mieux.
Trop stylé.
Bah, le mec derrière va la prendre.
Ah bah oui, c'est ça.
Donc, ouais. S'il n'y a pas beaucoup de vagues, déjà, tu n'en as pas beaucoup. Et en plus, la première que tu prends, derrière, tu es obligé d'attendre que tout le monde en prend une. Donc, en gros, tu peux attendre. Ouais.
Ça ne va pas forcément être le cas à Taubo parce que dans les événements, ouais. J'ai regardé la finale d'il y a 3 ans. Ouais. L'eau est ultra désorganisée. Il y a des vagues qui partent dans tous les sens. Ouais. C'est vraiment ultra moche.
D'accord.
À Taubo, en général, c'est assez organisé. Ouais. Il y a des gros sets qui arrivent. Et généralement, tu l'entends parce qu'il y a les gens qui crient quand il y a des vagues qui arrivent. Et alors là, tu sais que ça part et c'est vraiment, vraiment impressionnant.
D'accord.
Quoi.
D'accord. Et alors d'ailleurs, c'est un format d'épreuve qui est un peu rigolo. Puisqu'en fait c'est 4 jours parmi 10, donc c'est-à-dire les jours où il y a les meilleures vagues.
Okay. Et c'est... En même temps, il faut pour ce genre d'épreuve,
c'est ça.
Tu peux pas fixer une date 2 ans avant.
Exactement, donc c'est 4 jours dans une fenêtre de 10 jours et ça sera du 27 juillet au 5 août, mais selon l'arrivage de vagues. Hein, pas...
Et ça, c'est vrai que c'est traditionnel sur les compétitions maintenant que tu le dis, où ouais, tu penses que ça va démarrer aujourd'hui et en fait, bah non, ça démarre demain.
C'est ça le surf en fait.
Pour la préparation, ouais.
Ils sont jamais, en fait, tu sais jamais.
Déjà qu'ils sont dans des îles de port, ils disent non, je
crois. 80% de temps libre.
Il faut le sentir,
pas,
en fait. Il faut le
sentir aujourd'hui.
Merci à tous de nous avoir suivis. Support Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux @supersport3000 sur Twitter. Si vous pouvez prendre 2 minutes pour nous laisser un commentaire de 5 étoiles, de toute façon les autres on les supprime.
Absolument.
N'hésitez surtout pas à nous envoyer des sports que vous voulez nous voir analyser de manière précise.
Oui. Et professionnel.
Et professionnel, bien sûr. Merci Seb.
Merci Olive.
Merci Nico.
Merci Olive.
Merci Will. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrez peut-être votre nouveau sport favori.
Salut.
Salut. Sacré première. Hein, putain.